Chapitre 36. La tête baissée, Fitch voyait seulement les jambes et les pieds de Maître Spink, qui faisait les 100 pas devant son auditoire. Dans la pièce, quelques personnes, pour l'essentiel des femmes âgées, ravalaient plus ou moins discrètement leurs sanglots. Le jeune Haken ne pouvait pas les en blâmer. Au cours des réunions de repentance, il lui arrivait parfois de pleurer. S'ils voulaient combattre leur vile nature, les Haken devaient entendre inlassablement d'atroces histoires. Mais si noble que fût le but, ça ne rendait pas plus agréable ces récits d'horreur. Quand Maître Spink parlait, Fitch préférait contempler le sol plutôt que de risquer de croiser son regard. Oser dévisager un Andérien lorsqu'il évoquait les souffrances de ses ancêtres, infligées par ceux du jeune Haken, aurait été d'une arrogance impie.
« Ce fut donc par hasard, » rappela Maître Spink, « que les hordes Haken déferlèrent sur ce malheureux village de fermiers. Inquiets pour leur famille, les hommes de cette communauté s'étaient unis à d'autres Andériens des environs pour tenter de repousser l'envahisseur. Ah, si vous les aviez entendus implorer le Créateur que leurs femmes et leurs enfants au moins soient épargnés! Désespérés, ils avaient déjà offert toutes leurs réserves de nourriture aux conquérants avec l'espoir de les apaiser. Des messagers étaient allés proposer ces humbles offrandes aux Haken, mais aucun n'était revenu. Un plan très simple avait alors germé dans l'esprit des malheureux Andériens. Se masser au sommet d'une colline et brandir des armes improvisées en criant comme des fous. Pas pour inciter les Haken à combattre, bien sûr, mais pour les pousser à faire un détour et éviter le village. Ces hommes étant des paysans, non des soldats, ils levaient au-dessus de leur tête des outils, pas de véritables armes, car n'oubliez jamais qu'ils voulaient simplement la paix. Imaginez-les sur leur colline, ces braves gens qui ignoraient tout de la guerre. Shelby, Whelan, Camden, Edgar, Newton, Kenway et tous les autres. Ces pères de famille, dont je vous raconte l'histoire depuis des semaines, pour que vous compreniez leurs sentiments, leurs espoirs et leurs rêves si purs et si nobles et si humbles. Oui, ils étaient là, avec au cœur le futile désir de convaincre les Haken de passer leur chemin. Voyez-vous les faux, les faucilles, les fléaux et les houx qu'ils serraient entre leurs mains calleuses pour protéger les femmes et les enfants dont je vous ai également raconté la vie et révélé les noms? Ses bottes martelant le plancher, Maître Spink passa devant Fitch. Les Haken ne décidèrent pas de faire un détour. Hurlant de rire et assoiffés de sang, ils lancèrent leurs abominables Domini Dirch sur ces innocents Andériens.
Quelques jeunes filles crièrent de terreur ou gémirent d'angoisse. Fitch lui-même sentit ses tripes se nouer, et il dut lutter pour ne pas pleurer en imaginant la mort horrible de ces hommes valeureux qu'il connaissait désormais aussi bien que s'ils avaient fait partie de sa famille.
« Pendant que les Haken riaient, » continua Maître Spink, « les Domini Dirch réduisirent en bouillie d'héroïques résistants qui cherchaient uniquement à défendre leurs proches. Oui, en bouillie. Tandis que les bouchers Haken paradaient dans leurs beaux uniformes étincelants. »
Bien qu'il n'eût pas levé les yeux, Fitch sentit peser sur sa nuque le regard de Maître Spink. Derrière lui, il entendait des hommes et des femmes sangloter.
Les cris des fermiers innocents montèrent dans le ciel du pays, qui ne s'appelait pas encore Anderit. Ce fut les derniers qu'ils poussèrent, alors que leur chair éclatait, transpercée par leurs os.
Une des vieilles femmes hurla de terreur. Maître Spink était toujours debout devant Fitch, qui se sentit soudain beaucoup moins fier de sa belle tenue de messager, qui lui avait pourtant valu des murmures admiratifs quand il était entré dans la salle.
« Je vois que tu portes maintenant un bel uniforme, Fitch !»
lâcha Maître Spink d'un ton qui glaça le sang du jeune Haken. Mais il devait répondre s'il ne voulait pas que les choses tournent encore plus mal pour lui.
« Oui, maître. J'étais un humble garçon de cuisine, mais Messire Campbell, dans sa grande bonté, m'a proposé un poste dans son équipe de messagers. Il veut que je porte cet uniforme pour que tous les Haken voient qu'ils peuvent s'améliorer, s'ils acceptent l'aide des Andériens. Il tient aussi à ce que ces courriers présentent bien, puisqu'ils sont chargés de dispenser la bonne parole du ministère de la Civilisation, qui fait tant de choses pour le peuple d'Anderit.
Maître Spink flanqua à Fitch une claque qui le fit tomber de son banc.
N'ose plus jamais me parler ainsi. Tes minables excuses de Haken ne m'intéressent pas.
Je suis désolé, maître,
souffla Fitch. Sachant qu'il risquait de se faire battre comme plâtre, il n'eut pas l'arrogance de tenter de se relever.
Les Haken sont intarissables quand il s'agit de justifier leurs crimes. Tu t'exhibes dans un bel uniforme, comme aimaient à le faire les grands seigneurs du passé, et tu te rengorges comme eux, même si tu essaies de le cacher en digne vermine vicieuse que tu es. Encore de nos jours, les Andériens souffrent de la haine qu'ils lisent dans le regard des chiens comme toi. Tous les Haken nous méprisent, et ce calvaire nous sera imposé jusqu'à la fin des temps. Sans parler de ceux qui osent se montrer en uniforme pour nous rappeler les horreurs que nous avons subies. Ta vile nature de Haken a repris le dessus, et tu as tenté de justifier l'indéfendable, ton arrogance et la jubilation malsaine que tu tires de cet uniforme. Vous voudriez tous redevenir les grands seigneurs de jadis, et chaque jour, de pauvres Andériens comme moi doivent avaler de telles insultes.
Pardonnez-moi, maître Spink, j'ai eu tort de parader dans cette tenue. Mon indignité congénitale m'a poussé à commettre un nouveau crime contre les Andériens.
Maître Spink eut un grognement méprisant, mais il reprit son exposé. Conscient qu'il aurait mérité un châtiment plus dur, Fitch estima s'en être tiré à bon compte.
Les hommes ayant été massacrés, les femmes et les enfants du village restèrent sans défense.
Les bottes de l'Andérien recommencèrent à marteler le plancher. Comprenant qu'il circulait entre les bancs où étaient assis les repentants, Fitch osa se relever et reprendre place sur son siège. Une de ses oreilles bourdonnait atrocement, comme quand Beata l'avait giflé. Mais il entendait quand même les terribles paroles de Maître Spink.
« Mis en appétit par cette boucherie, les Haken décidèrent d'aller s'amuser un peu dans le village.
« Non !»
cria une femme au fond de la salle. Puis elle éclata en sanglots. Les mains croisées dans le dos, Maître Spink ignora cette interruption. Les manifestations de ce genre étaient si fréquentes.
Les Haken avaient envie de festoyer, et ils rêvaient de viande grillée.
Les repentants tombèrent à genoux, tremblant de peur pour les villageoises et leurs enfants qu'ils avaient si bien appris à connaître ces dernières semaines.
Peu désireux de se singulariser, Fitch imita ses compatriotes.
« Comme vous le savez, » continua Maître Spink, « c'était un minuscule village. Quand ils eurent abattu tout le bétail, les Haken s'avisèrent qu'il n'y aurait pas assez de viande. » Bien entendu, il ne leur fallut pas longtemps pour trouver une solution. Ils capturèrent les enfants.
Fitch aurait donné n'importe quoi pour que la réunion de repentance s'arrête là. Il doutait de pouvoir en entendre davantage et la plupart des femmes semblaient partager son angoisse.
Prostrées sur le sol, le visage contre le plancher, elles imploraient les esprits du bien de veiller sur les âmes toujours meurtries des pauvres Andériens innocents de jadis et d'aujourd'hui.
« Vous connaissez les noms de ces enfants, » continua Maître Spink, impitoyable. « À présent, je vais faire le tour de la salle, et chacun d'entre vous me dira comment s'appelait une de ces malheureuses petites victimes. Égare à vous si vous les avez oubliées, monstre de Haken. Oui, je veux entendre sortir de vos lèvres impures les noms de ces fillettes et de ces garçonnets qui furent grillés vifs devant leur mère. »
L'Andérien commença par la ranger du fond. Chaque repentant murmura le nom d'une des victimes et implora les esprits du bien de prendre à jamais soin d'elle. Avant d'autoriser les Haken à sortir, Maître Spink décrivit par le détail l'agonie des gamins, lentement dévorés par les flammes, parla de leurs cris de souffrance et précisa avec une minutie toute didactique combien de temps il avait fallu pour qu'ils soient cuits à point. Devant des évocations si sinistres, Fitch se demanda, un bref instant et pour la première fois de sa vie, si ce récit était vrai. Il semblait difficile d'imaginer que quelqu'un, y compris les Haken de jadis, soit capable de telles atrocités.
Mais Maître Spink était un Andérien, et il ne leur aurait pas menti, surtout sur un sujet tel que l'histoire de leur pays.
Qu'on puisse inventer de pareilles horreurs pour influencer des gens semblait inimaginable, et de plus, à quoi cela aurait-il servi?
Puisqu'il se fait tard,
dit l'Andérien quand il en eut fini, nous garderons pour la prochaine réunion le récit de ce que les Haken firent subir aux villageoises quand ils eurent le ventre plein. Alors vous penserez peut-être que les enfants, en fin de compte, ont eu de la chance de ne pas assister à cet ignoble spectacle.
Comme tous les autres, Fitch courut vers la porte, soulagé d'échapper jusqu'au lendemain à la suite du récit. L'air frais de la nuit lui fit un bien fou, comme s'il brûlait de fièvre. L'estomac retourné, il ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image des enfants embrochés comme des cochons de lait. Alors qu'il s'appuyait à un érable, attendant que ses jambes cessent de trembler, il vit que Beata sortait à son tour de la salle de repentance. Avec la lumière qui jaillissait de la porte ouverte et des fenêtres sans rideaux, elle ne pouvait pas ne pas l'avoir vue. Il espéra que son bel uniforme de messager ne lui ferait pas le même effet qu'à Maître Spink.
« Bonsoir, Beata, »
dit-il.
La jeune Haken s'arrêta et étudia Fitch de pied en cap.
« Bonsoir, Fitch. Tu es en beauté ce soir ?
Je suis exactement comme d'habitude. »
Beata plaqua les poings sur ses hanches.
« Toi, en revanche, tu parades dans un uniforme extravagant. Tu te pavanes comme un coq de village, Fitch. »
Le pauvre Haken en perdit aussitôt tous ses moyens.
Depuis toujours, il admirait la tenue et l'allure des messagers, et il aurait juré que Beata éprouvait le même sentiment. Mais au lieu de lui sourire, elle le foudroyait du regard. Bon sang, pourquoi n'était-il pas rentré directement au domaine ?
Messire Campbell m'a offert du travail et... Et tu attends impatiemment la prochaine réunion de repentance pour apprendre ce que nos ancêtres, aussi joliment attifés que toi, ont fait à ces pauvres villageoises ?
Beata se pencha vers Fitch.
Tu apprécieras beaucoup, presque autant que si tu avais été là pour te réjouir du spectacle.
Bouche bée, Fitch regarda la jeune fille tourner les talons et s'éloigner à grandes enjambées. Quelques promeneurs avaient été témoins de la leçon méritée que venait de recevoir un misérable Haken. Ils en sourirent de satisfaction, certains se moquant ouvertement de lui. Fitch fourra les mains dans ses poches et tourna le dos à ses rieurs. « Tant que ces gens ne seraient pas partis, décida-t-il, ils ne bougeraient pas. » Pour regagner le domaine, ils devraient marcher une bonne heure. Raison de plus pour ne pas partir tout de suite. S'il leur laissait assez d'avance, il ne rattraperait pas les autres repentants Haken qui s'en retournaient au palais, et ça lui éviterait de devoir leur parler. Et si, pour passer le temps, il allait se payer un coup à boire ?
Grâce à Messire Campbell, il en avait largement les moyens, et se saouler lui semblait une très bonne idée.
L'air se rafraîchit soudain, et Fitch sentit un étrange frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Puis, il faillit s'évanouir quand une main se posa sur son épaule. Se retournant, il découvrit une vieille andérienne dont les longs cheveux grisonnants trahissaient le statut élevé. Même s'il n'y avait pas assez de lumière pour qu'il voie son visage, qui devait être sacrément ridé, Fitch estima qu'elle était très âgée. Il s'inclina devant l'andérienne en priant pour qu'elle n'ait pas l'intention de reprendre le sermon là où Beata s'était arrêtée, ou pire encore, de lui ordonner d'accomplir une quelconque corvée.
« Cette fille compte pour toi ?»
demanda la femme.
« Je n'en sais trop rien, »
répondit Fitch, troublé par cette étrange question.
« Elle a été très dure avec toi.
Je le méritais, madame.
Et pour quelle raison ?»
Si seulement je le savais.
Que voulait donc cette andérienne ? Et pourquoi l'étudiait-elle comme une cuisinière qui choisit le meilleur poulet à faire rôtir pour le dîner ?
Elle portait une robe toute simple, de couleur sombre et déboutonnée jusqu'au col.
Rien à voir avec la mode provocante en vigueur chez les andériennes, mais si sa tenue était plutôt celle d'une femme du peuple, la longueur de ses cheveux indiquait qu'elle appartenait à l'élite du pays. Elle semblait différente des autres andériennes, surtout à cause de la bande de tissu noir enroulée autour de sa gorge, juste au-dessus du col de la robe.
« Parfois, » continua-t-elle, « quand une fille ne veut pas admettre qu'elle aime beaucoup un garçon, elle lui dit des méchancetés pour mieux cacher ses sentiments. »
« Et d'autres fois, elle l'insulte parce que c'est exactement ce qu'elle pense de lui. »
« Voilà qui n'est pas mal vu, »
reconnut l'andérienne avec un petit sourire.
« Ton amie vit-elle au domaine ou en ville ?»«
En ville. Elle travaille pour Inger, le boucher. »
L'andérienne sembla trouver ce détail amusant.
« Dans ce cas, »
plaisanta-t-elle,
« elle préfère peut-être qu'il y ait plus de chair sur les os de ses galants. » Quand tu te seras étoffé, elle te trouvera sûrement à son goût.
« C'est possible, »
marmonna Fitch.
Il n'en croyait pas un mot. De toute façon, il doutait de s'étoffer un jour. À son âge, on était déjà trop vieux pour espérer prendre du coffre.
Landérienne le dévisagea un long moment, puis elle lui posa une nouvelle question.
« Tu voudrais qu'elle t'aime ?»«
Eh bien, ça ne me déplairait pas, je crois. Ou au moins qu'elle ne me déteste pas. »
La femme eut un petit sourire entendu dont Fitch ne comprit pas la signification.
« Je peux arranger ça. »«
Je vous demande pardon, madame. »«
Si tu l'apprécies et si tu désires que ce soit réciproque, ça peut se faire. »«
Comment ?»«
En ajoutant quelque chose dans ce qu'elle boit ou ce qu'elle mange. »
Fitch comprit soudain qu'il était face à une sorte de magicienne. Maintenant, il ne s'étonnait plus qu'elle lui semble si étrange. Tous ceux qui détenaient ne serait-ce qu'une once de pouvoir avaient l'air bizarres, disait-on.
« Vous voulez parler d'un filtre d'amour ?» Ou de quelque chose dans ce genre?
Quelque chose dans ce genre, oui.
Je travaille pour Messire Campbell depuis ce matin, madame. Navré, mais je ne peux pas m'offrir vos services.
Je vois.
La magicienne se rembrunit.
Et si tu en avais les moyens?
Sans laisser Fitch répondre, elle enchaîna.
Mais ça pourrait venir très vite, dès que tu auras touché ta première paix.
Elle baissa le ton, comme si elle se parlait à elle-même.
Voilà qui me laisserait le temps de voir si je peux résoudre mon problème et être de nouveau efficace. Qu'en penses-tu, mon garçon?
Fitch hésita avant de répondre. Il ne voulait pour rien au monde vexer une andérienne, douée pour la magie, en plus. Mais tout ça ne lui disait rien qui vaille.
Ne le prenez surtout pas mal, madame. Mais si une fille devait m'aimer, je préférerais que ce soit pour ce que je suis, et rien de plus. Je vous remercie de cette offre. Hélas, je crois que je ne me sentirais pas très fier si je devais recourir à un filtre d'amour pour qu'une femme s'intéresse à moi.
Landérienne éclata de rire, de bon cœur, mais pas pour se moquer de lui, et lui tapota le dos. De sa vie, Fitch n'avait jamais entendu un Landérien rire de cette façon-là alors qu'il s'adressait à lui.
« Tant mieux pour toi, mon garçon. Il y a très longtemps, un sorcier m'a répondu exactement la même chose. »
Ce devait être effrayant. D'être face à un sorcier, je veux dire.
Pas vraiment, parce que celui-là était très gentil. À l'époque, j'étais toute petite. Je suis née avec mon pouvoir, comprends-tu? Ce sorcier m'a conseillé de ne pas oublier une règle très importante. La magie ne doit jamais se substituer aux véritables sentiments des gens.
Je ne savais pas qu'il y avait des sorciers en Anderit.
Il n'y en a pas. Cette histoire s'est passée en Aydindril.
Aydindril, au nord-est?
Dis-moi, tu connais beaucoup de choses, jeune Haken. Oui, au nord-est, dans la forteresse du sorcier, pour être plus précise. Je me nomme Franca. Et toi?
Le jeune Haken prit la main que lui tendait la magicienne et s'inclina bien bas.
Fitch, madame.
Franca.
Pardon?
Je t'ai dit mon nom pour que tu l'utilises, Fitch.
Désolé, mad... Franca.
Fitch, te rencontrer fut un plaisir. À présent, je dois retourner au domaine. Toi, tu vas sans doute aller te saouler. Les garçons de ton âge adorent ça.
Le jeune Haken n'aurait pu nier que l'idée d'aller vider quelques verres le séduisait.
Mais s'il partait avec Landérienne, elle lui parlerait peut-être de la forteresse du sorcier. Je ferais mieux de rentrer aussi. Si ça ne vous dérange pas, Franca, nous pourrions faire le chemin ensemble.
Landérienne dévisagea de nouveau Fitch, qui en frissonna de la tête aux pieds.
« J'ai un pouvoir, mon garçon. Ça signifie que je suis différente des gens normaux. Les Andériens et les Haken ne m'aiment pas, et ils me tiennent à l'écart, un peu comme mon peuple méprise le tien. »«
Les Andériens ?» répéta Fitch. « Comment est-ce possible, puisque vous êtes des leurs ?»«
Oh, cela ne suffit pas à effacer ma tâche originelle. Être une magicienne ?» Je sais ce qu'on éprouve quand on doit supporter le mépris et la haine de gens qui ne savent rien de ce qu'on est vraiment. Tout ça pour dire, jeune Fitch, que je serais ravi que tu m'accompagnes.
Fitch eut un sourire hésitant. Ces derniers temps, sa vie était sans dessus-dessous.
Voilà qu'il menait une conversation normale avec une andérienne, ce qu'il n'aurait pas cru possible. Et pour le désorienter un peu plus, il venait d'apprendre que Franca était tenu à l'écart par les siens à cause de son pouvoir. « Les Andériens ne vous respectent donc pas ?» demanda-t-il. « Votre magie devrait les impressionner. »«
Ils me craignent, c'est très différent. D'un côté, je ne m'en plains pas parce que les gens hésitent à maltraiter ceux qu'ils redoutent, mais ça les incite aussi à les frapper en traître.
Je n'avais jamais vu les choses comme ça,
avoua Fitch. Il se rappela le plaisir qu'il avait éprouvé en entendant Claudine Winthrop l'appeler « Messire ». Elle avait agi ainsi parce qu'elle mourait de peur, bien entendu, mais ça restait quand même agréable. En revanche, il ne comprenait pas vraiment ce que signifiait la dernière phrase de Franca.
« Vous êtes très sage, »
dit-il.
« C'est grâce à la magie ?»
Franca rit de nouveau, comme si elle le trouvait aussi amusant et exotique qu'un poisson doté de jambes.
« S'il en allait ainsi, on parlerait de la forteresse du philosophe, pas du sorcier. À mon avis, certaines personnes seraient au contraire beaucoup plus sages si elles ne pouvaient pas se reposer sur la magie. »
Fitch n'avait jamais rencontré quiconque qui fût allé en Aïdindril, et encore moins dans la forteresse du sorcier,
et il n'aurait jamais imaginé qu'une magicienne consentirait à lui parler. Cela dit, il s'inquiétait un peu. Ignorant tout de la magie, il craignait que Franca lui fasse beaucoup de mal s'il la mettait involontairement en colère. Pourtant, il la trouvait fascinante malgré son âge. Ils s'engagèrent sur le chemin du domaine. Sans dire un mot, ce qui ne manqua pas d'angoisser un peu plus le jeune Haken. Parfois, le silence le mettait mal à l'aise. De plus, il se demandait si sa nouvelle amie pouvait lire ses pensées pendant qu'il marchait. Il la regarda, la dérobée, et conclut qu'elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui fouine dans le cerveau d'autrui.
« Je peux vous poser une question, Franca ? »
dit-il en désignant la bande de tissu noir.
« Pourquoi portez-vous ça autour du cou ? C'est lié à la magie ?»
L'Andérienne eut un rire de gorge.
« Fitch, sais-tu que tu es le premier, depuis de longues années, qui ose me demander ça ? Bien sûr, c'est parce que tu n'en sais pas assez long pour avoir peur d'interroger une magicienne sur un sujet aussi intime.
Désolé, Franca, je ne voulais pas vous manquer de respect.
Et voilà, il avait déjà fait une gaffe. Pour se mettre à dos une andérienne douée pour la magie, il fallait vraiment être le dernier des idiots.
Franca ne desserra plus les lèvres pendant un long moment.
Très inquiet, Fitch glissa dans ses poches ses mains moites de sueur.
Tu ne m'as pas vexé, Fitch. Dit enfin Franca. « Mais ta question a réveillé en moi de très mauvais souvenirs. »«
Pardonnez-moi, j'aurais dû me taire, mais parfois je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises. »«
Bon sang, pourquoi n'était-il pas allé se saouler ?» L'Andérienne s'arrêta et se tourna vers lui.
« Fitch, ce n'était pas une bêtise. Regarde plutôt. »
Franca se pencha et tira sur la bande de tissu pour qu'il voie ce qu'elle cachait. À la lumière de la lune, Fitch aperçut les chairs violacées du cou de la magicienne. Une cicatrice courait autour de sa gorge, juste sous son menton.
« Des gens ont tenté de me tuer simplement parce que je suis une magicienne. Serine Radjak et ses fanatiques. »«
Des fanatiques ? Désolé, mais je ne connais pas ce mot. »«
Radjak abomine la magie. »
Franca lâcha la bande de tissu.
« Les fous qui pensent comme lui... » font tout pour monter les foules contre les personnes comme moi. Fitch, il n'y a rien de plus horrible que des hommes excités qui décident de lyncher quelqu'un. Individuellement, ils n'auraient pas le courage de le faire, mais ils se stimulent les uns les autres. N'oublie jamais ça. Une foule en colère devient une bête sauvage dotée d'une conscience collective perverse. On croirait voir une meute de chiens lancée aux trousses d'une biche. Radjak en personne m'a passé un nœud coulant autour du cou. J'avais les mains attachées dans le dos et ils m'ont pendu à une branche d'arbre.
Par les esprits du bien, ce devait être atrocement douloureux.
Franca sembla ne pas avoir entendu ce cri du cœur.
Ils entassaient du petit bois sous mes pieds pour me faire brûler. Pendant qu'ils tentaient d'allumer leur feu, j'ai réussi à m'échapper.
Fitch se massa nerveusement la gorge, mal à l'aise, comme si c'était autour de son cou qu'une corde se resserrait.
« Serine Radjak est à Haken ? »
demanda-t-il.
« Non, on peut être un monstre sans appartenir à ta race, mon garçon. »
Ils se remirent en route en silence. Supposant qu'elle était plongée dans ce terrible passé, Fitch n'osa plus déranger Franca. Mais par quel miracle ne s'était-elle pas étouffée ? Sans doute parce que le nœud coulant n'était pas assez serré ? Et comment avait-elle réussi à fuir ? Sur ce sujet, il n'avait pas l'ombre d'une hypothèse, mais il estimait avoir posé assez de questions intimes comme ça. Pour se distraire, il écouta les cailloux grincer sous les semelles de leurs bottes. Chaque fois qu'il regarda Franca, il constata qu'elle n'avait plus l'air joyeux comme au début. Quand apprendrait-il à tenir sa langue? Mobilisant tout son courage, il décida d'interroger l'Andérienne sur un sujet qui la dériderait peut-être. De plus, c'était pour ça qu'il avait proposé de rentrer avec elle.
« Franca, à quoi ressemble la forteresse du sorcier ?»
Voyant la magicienne sourire, Fitch se félicita d'être un si bon stratège.
« Elle est immense, et il n'existe pas de mot assez fort pour la décrire. La forteresse se dresse à flanc de montagne, au-dessus d'Aïdindril. Pour y accéder, il faut traverser un pont de pierre qui surplombe un gouffre de plusieurs milliers de pieds. Une partie du complexe est taillée à même la montagne, et les murailles sont plus hautes que des falaises. Des remparts plus larges que l'avenue qui mène au domaine relient les divers bâtiments. Partout, des tours gigantesques tutoient les cieux. C'est un spectacle magnifique.
Avez-vous rencontré un sourcier? Ou vu l'épée de vérité?
Serais-tu devin, mon garçon? J'ai vu cette arme, oui. Ma mère, une magicienne, était allée en Aïdindril pour rencontrer le premier sorcier. Ne me demande pas pourquoi, parce que je ne l'ai jamais su. Dans l'enclave privée, il y avait des dizaines d'objets extraordinaires, dont une épée qui scintillait comme un petit soleil.
Franca semblant ravi de répondre à ces questions-là, Fitch décida d'en poser une autre.
« Comment était l'enclave du premier sorcier? Et l'épée de vérité?
Eh bien, laisse-moi rassembler mes souvenirs. »
Avant de reprendre la parole, Franca se concentra un moment, le front plissé et les yeux dans le vague.